Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
C'est du populisme pur. Et il est ministre de la Constitution. C'est indigne.
C'est une attaque massive contre les droits fondamentaux.
Ce sont des outils dont a besoin la police pour travailler raisonnablement.
Populisme, menace, atteinte aux droits de l'homme d'un côté, lutte contre le terrorisme de l'autre. Que se passe-t-il avec la police en Allemagne? Des nouvelles lois sont débattues en ce moment. Ça fait débat et des manifestations éclatent dans tout le pays. On y revient dans un instant et puis juste après, direction Paris.
J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache.
Quelle politique migratoire pour la France après le sauvetage héroïque du Malien Mamoudou Gassama, alias Spider-Man, sauvetage d'un enfant qui a fait le tour du monde. On sera à Paris pour en parler dans la seconde partie de ce magazine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Hugo Flotatalon au micro, Willkommen, bienvenue à toutes et à tous. C'est donc un des débats virulents en ce moment en Allemagne, les nouvelles lois pour la police, des lois régionales, puisque en Allemagne, chaque land, chaque région a sa police et gère selon ses méthodes. Et ces nouvelles lois provoquent des débats politiques virulents, des manifestations dans les rues ou encore des tribunes dans la presse et sur Internet. Alors, il faut revenir un petit peu au départ de toute cette histoire. Cela a commencé à Munich, en Bavière, dans le sud-est du pays, il y a quelques semaines. Là-bas, le Parlement régional, donc, a débattu et adopté une nouvelle loi pour la police. C'était le 15 mai dernier. Adoption malgré la mobilisation populaire et des manifestations qui ont réuni parfois jusqu'à 30 000 personnes dans les rues de la ville de Munich. Et adoption qui provoque toujours la colère de Raphaël Müller. Il est membre du conseil de l'organisation altermondialiste allemande ATTAC.
C'est le durchcissement le plus massif pour toutes les lois sur la police depuis la création de la République fédérale d'Allemagne en 1949.
Le point qui cristallise une partie des débats est l'introduction de la notion de danger imminent, plus large que le terme de danger concret. Il permet en fait à la police d'intervenir plus vite, même sans preuve d'un délit. C'est ce que nous explique Stéphanie Rolling-Dijoux, professeure de droit franco-allemand et avocate en France et en Allemagne.
En réalité, le danger n'est pas vraiment déjà là. Et donc, ce concept de danger imminent ou menace imminente dans le danger est donc au cœur du débat. Et aussi parce qu'il s'agit d'un concept qui est difficile à définir. Donc, il laisse une grande marge de manœuvre aux autorités pour définir ce que c'est, comment l'appliquer.
Ce qui fait craindre aux opposants à la loi comme Raphaël Müller que la police ne soit parfois complètement débridée.
Ce concept de danger imminent laisse la possibilité à la police d'interpréter ce qu'elle considère comme un danger. Par exemple, si elle considère que quelqu'un aux cheveux longs est un danger, elle peut l'enfermer jusqu'à un mois en prison. Ça nous concerne tous, lors de manifestations syndicales, de grèves, de rassemblements de supporters de foot. Tous les groupes sont concernés, les journalistes aussi.
La prison, un mois ou illimité, même selon les régions, sous contrôle d'un juge tout de même, est la mesure la plus surprenante. Mais beaucoup, côté associatif et politique, s'opposent aussi à une autre partie de la loi, à ce qu'ils nomment une surveillance générale, qu'explique Stéphanie Rolling-Dijoux.
Donc il y a un durcissement des mesures pour cause de les adapter à la menace terroriste, notamment, qui sont par exemple une interdiction de séjour et de contact, afin de lutter contre la scène islamique. Il y a également la possibilité d'écoute téléphonique, de rentrer dans les ordinateurs des personnes afin de suivre les conversations, les chats entre les différentes participants au mouvement islamique.
Mais pour les activistes, avocats, supporters de foot parfois et tout simplement citoyens opposés au texte, cette justification terroriste ne tient pas. Écoutez Raphaël Müller.
La surveillance de téléphones portables, des ordinateurs, des disques durs, tout cela va être possible sans même qu'il y ait un délit. Pour tout ça, il y a d'autres services qui existent déjà, les services secrets, services criminels. Et puis, il faut le dire, il y a plus de morts chaque année à cause d'accidents de voiture qu'à cause du terrorisme. Or, on ne supprime pas nos droits fondamentaux pour éviter les accidents de voiture. La justification par la lutte antiterroriste n'est donc pas souhaitable et pas valable.
Après la Bavière, la Basse-Saxe et la Rhénanie du Nord-Westphalie envisagent un durcissement des textes de la police. Résultat, des dizaines d'appels à manifester sont déjà lancés pour les jours et les semaines qui arrivent. Des associations envisagent aussi de lancer de futures procédures devant le Conseil constitutionnel fédéral pour tenter d'annuler ces lois si elles sont prises. En attendant, à Düsseldorf, en Rhénanie du Nord-Westphalie, les débats se poursuivent au Parlement régional toute cette semaine.
Zéro tolérance en Rhénanie du Nord-Westphalie au lieu d'une politique molle comme auparavant. Voilà le cœur de notre action.
Des actions, des symboles, pas de sécurité et des attaques contre les libertés fondamentales.
Allez, comme promis, direction Paris maintenant. Vous avez tous entendu parler la semaine dernière, sur notre antenne aussi, de la naturalisation française d'un Malien de 22 ans, jusque-là sans papier. Il avait sauvé la vie d'un enfant en grimpant plusieurs étages de la façade d'un immeuble en lui évitant de tomber des mètres plus bas. Cette actualité passée, trois campements illégaux avec d'autres migrants ont depuis été évacués à Paris et peu de solutions d'hébergement durable semblent être proposées. Plusieurs militants de l'accueil des réfugiés sont également poursuivis pour avoir aidé des étrangers à entrer en France. Mélissa Chemam revient pour nous sur ces actualités et tente d'y voir plus clair sur les intentions du gouvernement à Paris.
C'est sous les applaudissements que Mamadou Gassama a quitté l'Élysée la semaine dernière. Ce Malien de 22 ans, entré illégalement en France, a sauvé un enfant dans un acte héroïque et a depuis obtenu le droit à la nationalité française et à une formation auprès des pompiers. Le préfet de Seine-Saint-Denis a promis une procédure spéciale et rapide.
Ce sera évidemment une procédure accélérée qui est prévue d'ailleurs par le Code civil avec une dispense de stage et qui permettra de traiter cette formalité dans des délais plus rapides qu'habituellement.
Mais parallèlement, le pays durcit sa politique d'accueil pour les étrangers, y compris les demandeurs d'asile. Le ministre de l'Intérieur français, Gérard Collomb, a même affirmé que les réfugiés compareraient les législations des pays pour choisir la plus avantageuse. Une idée qui fait scandale au sein des associations d'accueil débordées par l'absence d'aide publique. Depuis mercredi dernier, plus de 2000 migrants ont encore été évacués lors d'opérations de police à Paris, sur le campement informel dit du Millénaire, le long du canal Saint-Martin et près de la porte de la Chapelle. Une mesure loin de satisfaire la mairie de Paris, cependant. Elle reconnaît que plus de 80% d'entre eux auraient droit à l'asile car ils viennent de pays en conflit. Comme le confirme Yann Brossa, l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge du logement.
La mairie de Paris réclamait depuis longtemps la mise à l'abri des réfugiés qui dormaient jusqu'à présent dehors dans des campements. Les réfugiés qui dormaient là dans des conditions indignes ont finalement été mis à l'abri. Je regrette beaucoup la lenteur de l'État à prendre en charge ces hommes qui vivent là dans des conditions quand même assez monstrueuses. Et je trouve que l'État tarde beaucoup, malgré les demandes de la ville de Paris et des associations.
Comment vous faites à Paris pour gérer donc ce problème en tant que municipalité, étant donné qu'on sait très bien qu'il y a des allers-retours de personnes qui essaient de se diriger vers le nord de la France ou qui arrivent du sud de la France? Paris est une zone de transit, mais les gens souvent vous reviennent en fait quand ils se déplacent. Est-ce que l'interaction s'améliore avec le nouveau gouvernement ou on sait que c'est l'été et les arrivées se multiplient?
Je dirais que la situation est très difficile parce que l'hébergement est une compétence de l'État et qu'il n'y a pas beaucoup de bonne volonté de la part du nouveau gouvernement. Ça n'était déjà pas facile avec le gouvernement précédent, mais je dirais que c'est encore bien plus difficile depuis que Gérard Collomb est ministre de l'Intérieur. Ce que nous demandons, c'est l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires. Nous avons d'ailleurs proposé 6 lieux supplémentaires qui appartiennent à la ville de Paris et qui pourraient se prêter à de l'hébergement. Certains ont finalement été mobilisés par l'État dans le cadre de la mise à l'abri des réfugiés qui étaient au campement du 19e arrondissement. Mais pour l'instant, on ne sent pas une véritable volonté politique du gouvernement sur ce sujet. Et puis surtout, il y a nécessité, à mon sens, à réfléchir à la question du premier accueil. On sait qu'il y a entre 70 et 80 personnes réfugiées qui arrivent à Paris tous les jours. Et c'est comme cela depuis 3 ans, depuis 2015. Et ces gens, si on ne leur propose pas un accueil dans des conditions correctes, ils se retrouvent à la rue. Et ils font grossir les campements que nous avons dans la capitale. Donc je pense qu'il est nécessaire que le gouvernement se repenche sur le sujet. En tout cas, nous, à Paris, avec Anne Hidalgo, nous sommes candidats à l'ouverture d'un nouveau centre de premier accueil dans la capitale. Il faudra déterminer le lieu qui s'y prête le mieux. Mais si on ne réfléchit pas à un dispositif pérenne, il y aura inévitablement de nouveaux campements.
Pendant ce temps, dans le sud de la France, les arrivées par la frontière italienne se poursuivent et les familles qui leur viennent en aide se voient paradoxalement poursuivies. Elles dénoncent la répression d'un délit de solidarité, suivant ainsi Cédric Héroux, cet agriculteur devenu célèbre pour ses actions méritantes, au point d'être le sujet d'un film documentaire présenté au Festival de Cannes.
Cédric Héroux, agriculteur, vrai souroyat, délinquant. J'ai une quinzaine de personnes qui sont chez moi et que je cache.
Cette gamine, elle est légitime de rester en France, hein, la maman aussi, hein, si on leur laisse le droit de faire une demande d'asile.
S'ils n'ont pas de pièce d'identité, ils vont devoir me suivre.
Non, je m'en suis pas.
Mais ils vont me suivre quand même.
J'avais confiance en la justice. Je pensais que la justice était indépendante et on a la preuve que non.
Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, que ça continue.
Cité par de nombreux journaux, un exilé camerounais de 23 ans a ainsi résumé la situation migratoire en France. Un noir qui sauve un blanc mérite des éloges, un blanc qui sauve un noir mérite la prison. Mélissa Chemam à Paris pour la Deutsche Welle.
Reportage à retrouver et à partager depuis www.dw.com. Vous retrouvez d'ailleurs comme chaque semaine le podcast de cette émission en entier de tous les autres numéros sur notre site internet. Vue d'Allemagne s'achève déjà pour cette semaine, mais vous retrouverez Anne Le Touzé dès la semaine prochaine. Merci à ma consoeur Myriam Kinn de Deutschlandfunk pour les extraits de débat au Parlement que vous avez entendus aujourd'hui. On se quitte en chanson avec justement un Parisien, Maxime Le Forestier, qui chante « Être né quelque part » en 1986. Une chanson à l'époque déjà contre le durcissement de la politique migratoire de la France. Je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. Tchuss !
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
No mi conesco ni cosa. No mi conesco ni cosa.
Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
No mi conesco ni cosa. No mi conesco ni cosa.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
No, mi conesco ni cosa.